Bâtir une souveraineté parlementaire européenne en s'appuyant sur les souverainetés parlementaires nationales. C'est pourquoi il paraît plus approprié, si l'on souhaite bâtir un véritable espace démocratique transnational adapté à la réalité européenne, de s'appuyer également sur les parlements nationaux, au moins pour partie. Une possibilité pourrait être la création, entre les pays qui le souhaitent, d'une assemblée européenne composée de députés issus, pour partie, des parlements nationaux, en proportion des populations de chaque pays et des différents groupes politiques présents, et pour partie, du Parlement européen, là aussi, en proportion des différents groupes politiques présents parmi les représentants des pays décidant d'aller de l'avant. La question de la proportion à retenir met en jeu des considérations complexes qui ne peuvent être tranchées ici. Une proposition qui a émergé récemment dans le débat européen retient comme hypothèse de travail la possibilité qu'une telle assemblée européenne soit issue pour 80% de ses membres des parlements nationaux et pour 20% de ses membres de l'actuel Parlement européen. L'avantage de cette proposition, qui s'appuie sur un projet de traité de démocratisation de l'Europe, est qu'elle peut être adoptée par les pays qui le souhaitent sans changer les traités existants. S'il est préférable qu'elle soit adoptée d'emblée par le plus grand nombre possible de pays, et en particulier par l'Allemagne, la France, l'Italie et l'Espagne, qui à elles quatre représentent plus de 70% de la population et du PIB de la zone euro, rien n'interdit à un plus petit nombre de pays d'avancer et de former par exemple une assemblée franco-allemande ou franco-italo-belge. En tout état de cause, la proposition consiste à transférer à cette Assemblée européenne la compétence d'adopter quatre grands impôts communs. Un impôt sur les bénéfices des sociétés, un impôt sur les hauts revenus, un impôt sur les hauts patrimoines et une taxe carbone commune. Dans le projet de budget accompagnant la proposition, ces impôts pourraient par exemple rapporter environ 4% du PIB et être utilisés pour financer pour moitié un reversement au budget des États, qui pourrait ainsi abaisser les prélèvements pesant sur les classes populaires et moyennes qui, jusqu'ici, ont été les victimes de la concurrence fiscale européenne. Et pour moitié, un budget d'investissement dans la transition énergétique, la recherche et la formation, ainsi qu'un fonds permettant de faciliter et de mutualiser l'accueil des migrants. Il ne s'agit que d'une proposition illustrative, et il appartiendrait évidemment à l'Assemblée européenne de fixer les impôts et les priorités auxquelles elle souhaite se consacrer. Par exemple, l'Assemblée pourrait également décider de reverser aux États la totalité des recettes, auquel cas l'ensemble du dispositif permettrait simplement aux États membres de mieux imposer les acteurs économiques les plus puissants au niveau fédéral, afin de réduire la pression fiscale sur les classes populaires et moyennes au niveau de chaque État, ce qui serait déjà une excellente chose. Le point central est de se donner un espace de délibération et de décision démocratique permettant d'adopter des mesures fortes de justice fiscale, sociale et climatique au niveau européen. Ainsi que nous l'avons vu en analysant la structure des votes lors des référendums français et britanniques de 1992, 2005 et 2016, le divorce entre l'Europe et les classes populaires a atteint une ampleur considérable. Sans mesures concrètes et visibles, permettant de montrer que la construction européenne peut être mise au service d'un objectif de justice fiscale et sociale, il est difficile de voir comment cette réalité pourrait changer. La proposition pourrait parfaitement fonctionner avec un autre pourcentage de membres issus des parlements nationaux, par exemple 50% au lieu de 80%. Cette question mérite un large débat et une réflexion approfondie. Techniquement, le système proposé pourrait également être appliqué avec une proportion nulle de députés nationaux, auquel cas l'Assemblée européenne proposée se confondrait avec l'actuel Parlement européen, limité toutefois aux membres élus par les pays souhaitant avancer dans cette voie. Si un nombre suffisant de pays était déterminé à aller dans cette direction et à confier une telle souveraineté fiscale à cette sous-formation du Parlement européen, il s'agirait là d'une amélioration considérable par rapport au statu quo actuel. Il me semble toutefois que réduire trop fortement la proportion de députés nationaux, par exemple au-dessous de 50%, comporterait des risques importants. Le plus évident est que les parlements nationaux, dans le cas où ils se sentiraient en désaccord trop flagrant avec les politiques fiscales et sociales adoptées par l'Assemblée européenne, pourraient toujours décider de sortir de cette construction et de dénoncer le traité instituant cette assemblée. À partir du moment où les parlements nationaux restent souverains pour engager leur pays dans des traités internationaux, et donc aussi pour en sortir, ce que personne ne conteste, et ce qui constitue le plus important des pouvoirs, il paraît étrange de leur refuser la possibilité de participer au vote de l'impôt européen. De plus et surtout, le fait d'impliquer fortement les parlements nationaux dans la composition de l'Assemblée européenne permettrait de transformer de facto les élections législatives nationales en élections européennes. Concrètement, à partir du moment où les députés nationaux seraient fortement représentés à l'Assemblée européenne, il deviendrait impossible pour les partis et candidats se présentant aux élections législatives nationales de continuer de se défausser en permanence sur les institutions bruxelloises et d'expliquer qu'ils ne sont pour rien dans les choix européens. Attitude qui, au fil du temps, est malheureusement devenue le sport favori des responsables politiques nationaux en Europe. Dès lors qu'une partie des députés nationaux irait représenter leur groupe politique à l'Assemblée européenne et serait susceptible d'y changer les majorités, il leur faudra expliquer lors des élections législatives nationales quelles politiques européennes, quels impôts européens, quels budgets, quels reversements aux budgets nationaux ils comptent y défendre. La vie politique nationale s'en trouverait profondément européanisée. En ce sens, le fait de bâtir une souveraineté parlementaire européenne en s'appuyant sur les souverainetés parlementaires nationales me semble au final constituer une forme plus ambitieuse de fédéralisme européen que celle consistant à contourner les parlements nationaux et à s'appuyer entièrement sur un parlement européen indépendant de ces derniers. Surtout, cette façon originale de construire une souveraineté parlementaire transnationale paraît plus adaptée aux réalités politiques et historiques européennes qui sont fort différentes des conditions qui ont présidé au développement des autres ensembles fédéraux, États-Unis, Inde, Brésil, Canada, Allemagne, etc., et exige une approche nouvelle. Reconstruire la confiance, développer des normes de justice communes. Afin de faciliter son acceptation par les différents pays, et afin de bien marquer que l'objectif principal est de réduire les inégalités à l'intérieur des pays, il est également prévu dans le projet proposé de plafonner drastiquement les transferts entre États signataires. Il s'agit d'un point qui peut sembler technique, voire déplaisant, mais qui, compte tenu du climat de défiance qui règne actuellement entre pays européens, est sans doute la seule façon d'espérer obtenir quelques avancées. Dans le cadre du budget actuel de l'Union européenne, environ 1% du PIB, la Commission européenne publie les soldes budgétaires annuels de chaque pays, c'est-à-dire la différence entre les contributions versées par chaque État et les dépenses dont il a bénéficié. Au cours de la période 1998-2018, les plus grands contributeurs nets sont l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni, avec des soldes contributeurs nets oscillant autour de 0,2-0,3% du PIB suivant les années. Ce thème des transferts versés à l'Europe a joué un rôle non négligeable dans la campagne référendaire sur le Brexit. En particulier, le leader de l'UKIP a passé sa campagne à décompter les fonds perdus chaque semaine par le National Health Service du fait des transferts à l'Europe, tout cela en gonflant sérieusement les chiffres en jeu. Le nouveau budget prévu dans le cadre du traité de démocratisation de l'Europe et de l'Assemblée européenne, soit 4% du PIB dans le projet proposé, s'ajouterait pour les États signataires au budget actuel de l'Union européenne. Afin de se prémunir contre le risque de rejet, le projet prévoit que l'écart entre les recettes et les dépenses ou reversements versés et reçus par les différents États signataires dans le cadre de ce budget additionnel ne puisse excéder 0,1% du PIB. S'il existe un consensus en ce sens, ce seuil peut naturellement être abaissé ou rehaussé sans modifier la substance du projet. Il s'agit d'un point fondamental, car le fantasme de l'union de transfert est devenu le point de blocage de toute la réflexion européenne. En particulier, la dénonciation du risque de transfert-union est devenue depuis la crise de 2008 un discours extrêmement répandu parmi les responsables politiques allemands, notamment au sein de la CDU, parti chrétien-démocrate de la chancelière Angela Merkel, mais également chez les sociaux-démocrates du SPD, et plus généralement en Europe du Nord, en particulier aux Pays-Bas. Pour résumer, ce discours consiste à voir dans chaque proposition d'impôt commun ou de budget commun une tentative des pays d'Europe du Sud et de la France, réputés mal gérés, de s'approprier une partie des richesses durement produites par les Européens du Nord, supposés vertueux et travailleurs. Il ne m'appartient pas de dire ici comment nous en sommes arrivés à une telle défiance qui confine parfois au conflit identitaire. Sans doute l'attitude récurrente des gouvernements français, consistant à se plaindre des règles budgétaires européennes qu'ils avaient eux-mêmes contribué à faire adopter, tout cela sans en proposer de nouvelles, irrite-t-elle depuis fort longtemps outre-Rhin et ailleurs. Il faut également rappeler que la crise de la dette grecque a initialement résulté de la manipulation massive par les autorités du pays des statistiques du déficit budgétaire, ce qui a causé une méfiance considérable. À l'inverse, il est évident que le discours germanique, selon lequel tous les problèmes européens seraient réglés si chaque pays alignait son système économique sur le modèle allemand, n'a guère de sens. Personne au monde ne pourrait absorber un excédent commercial allemand généralisé à la taille de l'Europe. Par ailleurs, le fait de se focaliser sur les transferts publics n'est pas satisfaisant. Les échanges privés apportent des bénéfices importants à tous les pays, et notamment à ceux, comme l'Allemagne, qui ont réalisé des investissements très profitables chez leurs voisins. Rappelons que les flux privés de profits sortant des pays d'Europe de l'Est dépassent de beaucoup les flux publics entrants. À l'avenir, il est essentiel qu'une réflexion s'engage afin de prendre en compte les flux et bénéfices privés apportés par l'intégration européenne et la façon dont ils sont affectés par les politiques menées et le cadre légal et fiscal en vigueur, afin de sortir de cette focalisation exclusive sur les soldes publics. Il reste que, dans l'état de méfiance qui existe actuellement entre pays européens, après 10 années de crise financière, où chacun estime avoir été maltraité par les autres, il paraît peu probable qu'un gouvernement allemand, ou d'ailleurs un gouvernement français ou d'un autre pays, puisse convaincre son opinion de transférer des compétences fiscales et budgétaires à une assemblée européenne sans plafonner au préalable les transferts qui pourraient en résulter. S'il s'avère possible d'augmenter le seuil proposé de 0,1%, ce serait une excellente chose. Mais cela ne doit pas servir d'excuse pour le rejet du projet qui garderait toute son utilité en l'absence de tout transfert explicite. Cela provient notamment du fait que les revenus moyens ne sont pas très différents au sein des principaux pays de la zone euro, si bien que le véritable enjeu est avant tout la réduction des inégalités à l'intérieur des pays et non pas entre pays. Autrement dit, les classes populaires et moyennes de tous les pays, y compris bien sûr en Allemagne, ont beaucoup à gagner d'une plus grande justice fiscale. Par exemple, d'un système fiscal qui imposerait enfin à un taux plus élevé les plus grandes sociétés que les petites et moyennes entreprises, les plus hauts revenus et patrimoines que les plus faibles, et les plus fortes émissions carbone que les moins élevées. Le simple fait de pouvoir mettre en place des impôts plus justes à l'intérieur de chaque pays et de se placer à l'abri du risque de concurrence fiscale, car ces nouveaux impôts seraient appliqués en même temps dans plusieurs pays, constitue en soi un progrès décisif, y compris en l'absence de tout transfert. Par ailleurs, le calcul des transferts publics doit naturellement exclure les dépenses et investissements réalisés dans un pays en vue de satisfaire un objectif d'intérêt commun, bénéficiant également à tous les pays, comme la lutte contre le réchauffement climatique, ainsi que le fonds d'accueil aux réfugiés et l'accueil d'étudiants d'autres pays signataires. Dans la mesure où le budget commun vise à financer des biens publics européens qui bénéficieront de manière similaire à l'ensemble des États signataires, l'objectif à terme est évidemment que les ressortissants des différents pays appréhendent cet instrument en tant que membres d'une même communauté politique, et non pas au travers du prisme des soldes nationaux, dont on peut espérer qu'ils auront de moins en moins de sens. Mais pour en arriver là, il faut accepter de partir du principe que la confiance devrait être bâtie progressivement, tant les écueils nationalistes sont nombreux. Sortir de la crise permanente de la dette publique en Europe. Le projet social fédéraliste présenté ici repose avant tout sur une ambition de justice fiscale, sociale et climatique. Il s'agit de permettre à une communauté d'États, en l'occurrence en Europe, mais cela pourrait s'appliquer dans d'autres contextes, de montrer que l'internationalisme peut être mis au service de politiques plus justes que la concurrence sans fin au profit des plus mobiles, habituellement associés à l'intégration européenne, et plus généralement à l'intégration économique internationale et à la mondialisation. Dans le contexte spécifique de la crise de la zone euro où un ensemble de pays a choisi de créer une monnaie unique tout en conservant 19 dettes publiques et taux d'intérêt différents, le projet présenté prévoit également la possibilité, si l'Assemblée européenne le décide, d'une mise en commun du taux de refinancement des États pour tout ou partie de leurs dettes. Là encore, compte tenu du climat de défiance décrit plus haut, il importe d'être précis si l'on veut éviter tout malentendu et se donner une chance d'avancer. Il ne s'agit pas de partager les dettes. Autrement dit, il ne s'agit pas de mettre dans un même paquet la dette allemande, 64% du PIB en 2018, et celle de l'Italie, 132% du PIB, et de demander aux contribuables allemands et italiens de rembourser l'ensemble en oubliant qui a mis quoi dans le paquet. Non pas que l'idée soit totalement saugrenue en soi, les jeunes Italiens ne sont pas plus responsables que les jeunes Allemands des dettes qu'ils ont reçues en legs. Simplement, présenté de cette façon, on voit mal quel mouvement politique allemand pourrait être élu sur un tel programme. Les normes de justice transnationale et les processus de redéfinition des frontières doivent être construits politiquement et historiquement, sur la dette comme sur les autres questions. Concrètement, la proposition envisagée ici pour les dettes européennes s'inspire du fonds de rédemption de la dette publique, débattu en Allemagne en 2012. À la différence importante près que c'est une instance démocratique, l'Assemblée européenne, et non pas une règle automatique qui décidera du rythme de remboursement. Autrement dit, l'Assemblée européenne pourrait décider de mettre en commun tout ou partie des dettes des États signataires dans un même fonds de refinancement et décider chaque année, à mesure que les dettes viennent à échéance, quelle partie doit être refinancée par l'émission de titres de dette commune. Le point important et que l'on garderait des comptes séparés de façon que chaque pays continue de rembourser sa propre dette, mais à un taux d'intérêt identique pour tous. Ce point peut sembler technique, mais il est en réalité fondamental. C'est en effet l'évolution chaotique sur les marchés financiers de l'écart de taux d'intérêt entre pays de la zone euro qui est à l'origine de la crise européenne de la dette. Dette qui, à la veille de la crise de 2008, n'était pourtant pas plus élevé en zone euro qu'aux États-Unis, au Japon ou au Royaume-Uni. C'est cette mauvaise organisation collective et cette incapacité des pays européens à créer un titre de dette commune qui explique, pour une large part, la piètre performance macroéconomique des pays de la zone euro depuis la crise de 2008. Pour résumer, la zone euro a réussi par sa seule faute à transformer une crise financière venue initialement du secteur financier privé états-unien en une crise européenne durable des dettes publiques. Or, ceci a eu des conséquences dramatiques pour les pays européens, en particulier avec la montée du chômage et des mouvements anti-immigrés, alors même que l'Union européenne se caractérisait avant la crise de 2008 par une capacité d'intégration importante. Le chômage et l'extrême droite étaient en baisse et les flux migratoires étaient plus élevés en Europe qu'aux États-Unis. D'après les données démographiques et migratoires rassemblées par les Nations Unies, le flux migratoire entrant en Union européenne, net des sorties, atteignait 1,4 million de personnes par an entre 2000 et 2010, avant de chuter à 0,7 million par an entre 2010 et 2018, en dépit de l'afflux des réfugiés et du pic de 2015. Aux États-Unis, qui se sont relevés plus facilement que l'Europe de la récession de 2008, le flux est resté stable. 1 million par an entre 2000 et 2010, 0,9 million entre 2010 et 2018. Il faut également rappeler que les traités mis au point dans l'urgence par les pays de la zone euro pour faire face à la crise de la dette n'ont rien réglé quant aux questions de long terme et devront être revus d'une façon ou d'une autre, sauf à accepter qu'ils ne soient jamais respectés, ce qui ne fera que des mécontents et ne conduira qu'à accroître les tensions. Les nouvelles règles fixées par le traité budgétaire, TSCG, de 2012, prévoient en théorie que le déficit ne doit pas dépasser 0,5% du PIB. Sauf circonstances exceptionnelles, le non-respect de ces règles entraîne en principe des pénalités automatiques. Mais en pratique, ces règles sont totalement inapplicables, tellement elles sont absurdes. Précisons que le déficit visé par les textes européens est toujours le déficit secondaire, c'est-à-dire après paiement des intérêts de la dette. Si un pays a une dette égale à 100% du PIB et que le taux d'intérêt est de 4%, alors les intérêts seront de 4% du PIB. Pour réaliser un déficit secondaire limité à 0,5%, Il faudra donc réaliser un excédent primaire de 3,5% du PIB. Autrement dit, les contribuables devraient payer des impôts plus élevés que les dépenses dont ils bénéficient, avec un écart de 3,5% du PIB, possiblement pendant des décennies. Dans l'absolu, l'approche du TSCG n'est pas illogique. À partir du moment où l'on refuse les mesures exceptionnelles, les rééchelonnements de longue durée et les annulations de dettes, que l'inflation est quasi nulle et la croissance limitée, alors seuls d'énormes excédents primaires peuvent réduire à l'horizon de quelques décennies des dettes de l'ordre de 100% du PIB. Il faut cependant mesurer les conséquences sociales et politiques d'un tel choix. Cela voudrait dire que l'on consacre pendant des dizaines d'années des ressources gigantesques à rembourser des dettes et des intérêts aux détenteurs de patrimoine financier, alors même que l'on manque de moyens pour investir dans la transition énergétique, la recherche médicale ou la formation. En pratique, ces règles ne sont pas appliquées et ne le seront sans doute jamais. Par exemple, à l'automne 2018, une nouvelle crise s'est ouverte au sujet du déficit entre la Commission européenne et le gouvernement social-nativiste italien. Le gouvernement italien voulait faire passer le déficit à 2,5% du PIB, alors que le gouvernement précédent avait promis 1,5%. Face aux protestations de la Commission, un compromis a finalement été trouvé officiellement à 2% de déficit, et en réalité, sans doute quelque part entre 2 et 2,5%. Dans tous les cas, nettement au-dessus de la règle officielle de 0,5% que personne ne semble prendre très au sérieux. Compte tenu du fait que les intérêts de la dette représentent actuellement environ 3% du PIB en Italie, cela signifie tout de même que le pays a actuellement un excédent primaire compris entre 0,5% et 1% du PIB, ce qui n'est pas rien. Une telle somme permettrait par exemple de doubler, voire de tripler, le budget total de l'enseignement supérieur en Italie, à peine plus de 0,5% du PIB. On peut se rassurer en se disant que l'excédent primaire exigé aurait été beaucoup plus élevé si la Commission et l'Eurogroupe avaient décidé d'appliquer plus strictement les règles et se réjouir d'une telle flexibilité. Mais en réalité, cela n'a aucun sens d'écrire des règles hyper rigides, puis de choisir de les ignorer tant elles sont absurdes, et pour finir, de se retrouver à négocier dans des conditions opaques un compromis peu clair, dans le cadre de négociations à huis clos, hors de toute délibération parlementaire contradictoire. On peut s'en satisfaire et miser sur le fait que l'équilibre futur se fixera autour d'une demande d'excédent primaire positif mais faible, moins de 1% du PIB. Autrement dit, on demande aux pays endettés de couvrir désormais intégralement leurs dépenses par leurs recettes fiscales, et même légèrement davantage, mais pas de rembourser à marche forcée les dettes du passé. Cela revient finalement à rééchelonner ces dernières à un horizon lointain, ce qui peut sembler être un compromis raisonnable. Le problème est qu'en pratique, tout ceci n'est pas assumé clairement, si bien que les demandes faites aux différents pays sont souvent incohérentes et à géométrie variable. En 2015, il y a clairement eu un choix politique d'humilier la Grèce, coupable aux yeux des autorités européennes, allemandes et françaises en particulier, d'avoir élu un gouvernement de gauche radicale, en portant au pouvoir la coalition anti-austérité Syriza, issue de la fusion de divers partis communistes, socialistes et écologistes, situés à la gauche du Parti socialiste grec, le PASOK, discrédité par son passage au pouvoir lors de la tourmente financière de 2009-2012. Syriza remporta les élections et tenta d'adoucir les termes de la politique budgétaire imposée par les dirigeants européens, ce que ces derniers avaient promis. Mais pour éviter d'offrir une victoire symbolique à Syriza, dont on craignait qu'elle ne mène à un phénomène de contagion, en particulier en Espagne, où le mouvement Podemos était alors en forte progression, on décida d'imposer à la Grèce une nouvelle purge budgétaire, avec une cible d'excédent primaire de 3% du PIB, alors même que le niveau d'activité économique était toujours 25% au-dessous de son niveau de 2007. Ce faisant, on oublia au passage que Syriza, malgré ses défauts, avait le mérite d'être un mouvement internationaliste, ouvert à l'Europe et solidaire avec les migrants arrivant sur les côtes grecques. Il aurait été plus judicieux de s'appuyer sur de tels mouvements pour développer des politiques fiscales plus justes en Europe, y compris en mettant mieux à contribution les riches grecs, comme d'ailleurs les riches allemands et français. Les mesures prises découragèrent peut-être les électeurs de gauche radicale. Mais 3 ans plus tard, en 2018, c'est un gouvernement social-nativiste qui est arrivé au pouvoir en Italie. Une coalition dont l'un des principaux ciments est la chasse aux étrangers, mais avec laquelle on est bien obligé d'être plus conciliant compte tenu de la taille du pays. Bien qu'amoindri par des taux inhabituellement bas, qui ne dureront peut-être pas éternellement, les intérêts sont actuellement de 2% du PIB en zone euro, le déficit moyen est de 1% et l'excédent primaire de 1%. Soit plus de 200 milliards d'euros par an, à comparer par exemple avec les malheureux 2 milliards par an investis dans le programme Erasmus pour la mobilité des étudiants. C'est un choix possible, mais il n'est pas sûr que ce soit le meilleur pour préparer l'avenir. Si l'on consacrait de telles sommes à la formation et à la recherche, alors l'Europe pourrait devenir le premier pôle mondial d'innovation devant les États-Unis. En tout état de cause, de tels choix devraient pouvoir être débattus dans une enceinte démocratique. En cas de nouvelle crise financière, ou simplement en cas de remontée des taux d'intérêt, on se rendrait vite compte du caractère explosif des règles budgétaires fixées en 2012, dont il faudrait bien prendre acte du caractère inapplicable, avec un risque considérable que les rancœurs et tensions entre pays remontent à la surface, faute de s'être donné à temps un cadre démocratique légitime pour traiter de ces questions complexes et trouver le meilleur compromis.